Jean, chapitre 11. On est dimanche matin, le 6 février 2022 à Baltimore, Pasteur Schaller et le prédicateur. Des miracles incroyables qui se passent dans ce chapitre. La résurrection de Lazare, résurrection des morts. Lazare était mort 4 jours. Qu'il est mort depuis 4 jours. Ses sœurs avaient le cœur brisé. La communauté est venue. Ils étaient qu'à 3 kilomètres de Jérusalem, à Béthanie, de l'autre côté de la vallée de Kidron. Les pharisiens sont venus. C'était une grande cérémonie. Là. Non seulement la nature du miracle, mais ce que ça signifiait par rapport à Christ et ceux qui le suivaient. Beaucoup de gens croyaient en Jésus-Christ grâce à ce miracle. Les rabbins, ils n'avaient pas l'enseignement, mais ils avaient l'enseignement que 3 miracles allaient se faire lorsque le Messie venait. Guérir le lépreux, guérir l'aveugle et ressusciter les morts. Et ça s'est passé avec Jésus-Christ. Les pharisiens, juifs, ceux qui étaient responsables, ils ont des problèmes là. On lit à la fin du chapitre 11 dans le livre de Jean. Au verset 47, les souverains, les sacrificateurs, les responsables, les pharisiens, le conseil a été rassemblé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que cet homme-là, il fait beaucoup de miracles. Si on le laisse tranquille, tout le monde va croire en lui. Les Romains vont venir et vont nous enlever, nous, ils vont enlever notre nation aussi. Ça explique et ça nous montre combien on peut être en tort. Ils avaient une pensée, une façon de penser. À cause de ces miracles, à lui, les Romains vont venir et vont nous enlever et ils vont enlever notre nation. Caïphe, un des souverains, un des sacrificateurs, il leur dit, vous ne connaissez rien. Ce verset ici, vous ne connaissez rien. Ça a résonné avec moi, ce verset. Ce verset a résonné dans ma tête. Sans lire ma Bible, ce verset dit, je ne connais rien. Où est-ce que c'est écrit? Je me suis rappelé. Ça s'est passé. Tu fais une étude biblique, Dieu va te parler. Par le Saint-Esprit, Dieu peut amener à ta pensée. Tu ne connais rien du tout. Caïphe a dit cela. Et c'est une phrase arrogante et d'aveuglement et d'une pensée étroite. Suivez-moi dans le message. On essaie de faire du sens. On va construire petit à petit ce message édifié. On a le monde séculier aujourd'hui qui exclut la Bible. La Bible, le monde séculier. Ça exclut la Bible de nos discussions publiques, de nos politiques, de nos valeurs. Il y a un monde séculier qui a abandonné la moralité. Ils ont une moralité qui est convenable pour eux. La justice sociale, c'est une question morale. Mais tu peux dormir avec qui tu veux, tu peux aller te coucher avec qui tu veux, avec qui tu veux, où tu veux, avec autant de gens que tu veux, tu peux dormir. Mais la justice sociale est tellement importante. Ça paraît être une contradiction pour moi. Si je me soucie des gens là-bas, je vais aussi me soucier des personnes avec qui je vais dormir aussi, coucher. Et je ne ferai pas, je ne devrais pas faire ça, je ne violerai pas cela. Ou la blesser, ou la diminuer, la personne, ou la discréditer. Ce n'est pas chrétien cela, c'est le paganisme. On a le monde séculier avec des valeurs et ça contredit le christianisme traditionnel. Leurs valeurs contredisent les valeurs les dénominations importantes, ceux qui s'assemblent, ceux qui ont l'habitude de se rassembler, la pratique, les catholiques, les protestants, les chrétiens orthodoxes. On a tous fait partie de cela, bien sûr, peut-être. Mais il y a une troisième façon. Dans l'histoire, je veux que vous voyez que les pharisiens étaient contre Christ. Et Caïphe a dit, vous ne connaissez rien, vous. On va lire. C'est expéditif pour nous considérer qu'un homme devrait mourir pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas. Donc on va dire cela, il y a des gens qui sont au pouvoir, ils ont les choses dans le mauvais sens. Ils ne comprennent pas les choses les plus profondes dans la vie. C'est là où on va aller dans notre message aujourd'hui. On peut dire là, ce côté-là, les athées, de ce côté, tu peux les appeler comme tu veux, les scientifiques, les scientistes, modernes ou post-modernes, on peut appeler ces gens-là. C'est un monde dans lequel on est exposé tous les jours. On voit les gens qui sont au pouvoir dans des endroits différents, ils ont des positions et ainsi de suite. Ensuite, on a le groupe, les chrétiens traditionnels. Malheureusement, ou bien peut-être heureusement, on perd des membres. La tendance des églises qui diminue, les églises traditionnelles où tu as les activités, tu as les motions, les mouvements, tu apprends un petit peu, mais aussi il y a un vide aussi. Est-ce que c'est suffisant cela? Pour moi, ça n'était pas suffisant. J'ai été élevé dans une église traditionnelle, mais j'avais tellement de questions, tellement de combats dans mon cœur. J'avais besoin de quelque chose de plus. C'est ce que l'on appelle la troisième voie, ou bien le troisième camp. Je veux que vous voyez dans l'histoire, Marie avait une boîte, elle adorait Jésus, elle a brisé la boîte de l'onction pour l'oindre. Marie et la boîte de l'onction. Son frère a été élevé, ressuscité des morts. Son frère, qu'elle aimait beaucoup, il a été ressuscité. Jésus a fait cela. Elle connaît Jésus. Jésus est important. Jésus est la réponse. Il y a les profondeurs en Jésus, il y a de la profondeur. Il y a des gens qui sont profonds dans ces camps-là. Il y a des gens qui sont dans le monde séculier. Malheureusement, je pense qu'on devrait provoquer les athées, on devrait les provoquer pour eux de questionner leur athéisme, leurs doutes. On devrait les faire douter. Es-tu un athéiste? Es-tu un athée? Oui, je pense que je suis un athée. Est-ce que tu douterais? Est-ce que tu questionnerais ton athéisme? Es-tu sûr? Tu ne peux pas être sûr. Tu devrais questionner ta position. Tu devrais, dans ton propre cœur, pose-toi la question, est-ce que je peux être sûr qu'il n'y a pas de Dieu? Si je suis objectif, je ne peux pas être sûr de cela. Ça peut être argumenté. On peut disputer cela. On peut avoir des doutes. Les chrétiens traditionnels, es-tu sûr de ce que tu crois? Est-ce que tu peux douter? Est-ce que tu peux questionner? Je suis un athée. Y a-t-il un Dieu? Ou bien non? Peut-être il n'y a pas de Dieu. N'est-ce pas poser la question ou douter une bonne chose? On est créé pour se poser la question, n'est-ce pas? La question à propos de ce que l'on croit. C'est pour cela que moi, lorsque j'ai rencontré un chrétien comme vous ici, quelqu'un qui avait trouvé dans son voyage, il y a quelque chose que l'on a mentionné dans le culte ce matin à 9h avant, mais je veux l'amener de faire sortir de l'histoire ici. Trois choses. Il y a des gens qui étaient enthousiastes à propos de Jésus. Lorsqu'il est monté sur l'âne, il est venu dans la ville, ils ont crié « Hosanna, Hosanna » à Dieu. Ils ont mis leur manteau en bas et les branches de palmier et le Saint-Esprit, un réveil du Saint-Esprit qui accomplissait les Écritures. Et le Saint-Esprit faisait un travail ici. Mais Jésus n'est pas descendu de l'âne. Il n'a pas dit « Je suis le roi ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé par le troisième chemin, la troisième voie que l'on va parler aujourd'hui ici. Là. Il est allé à la croix. Il y a des gens comme nous qui sont enthousiastes à propos de Jésus dans notre foi. Et on finit parfois, on devient vide. Après des expériences, après des bénédictions, j'ai des combats, j'ai mes forces. Vous et moi, on est appelés par Jésus dans ce chapitre 12. Regardez ceci au verset. Verset 20, regardez. Il y avait des Grecs. C'est quoi la signification d'un Grec? Ils étaient éduqués dans les philosophies de Platon, de Socrate et d'un autre. Certains étaient des païens, mais ils étaient éduqués. Ils étaient préparés d'une certaine façon. Ils voulaient trouver, ils voulaient rencontrer Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Est-ce qu'ils étaient juifs? Ils étaient grecs, au minimum, au moins. Tu peux venir à Jésus, tu peux dire Jésus. Il y a des Grecs ici. Ils te cherchent. Peut-être ils sont venus de la Grèce. Peut-être. Ça aurait pu être le cas. Il leur a répondu de la façon dont il veut vous répondre à vous et à moi lorsqu'il nous dit, je veux que tu me connaisses vraiment. Je veux que vous me connaissiez vraiment. Ce monde séculier ici, au tableau dans le schéma, il y a un groupe ici qui ne me connaît pas. Le monde séculier, malheureusement, parfois, souvent, les chrétiens traditionnels ne me connaissent pas non plus. Et les deux se battent les uns avec les autres. Le monde chrétien, le monde moral, contre les séculiers, le monde séculier se battent. Les 10 commandements, les familles traditionnelles se battent avec les mondes séculiers. C'est le monde de la culture dans lequel on est, dans notre pays. Maintenant, on le reconnaît. Parce qu'on le voit. Peut-être Dieu nous dit quelque chose de plus profond. Et c'est ceci. Si tu me connais, si tu me connais, c'est ce monde, c'est à propos de cela. Ce n'est pas à propos d'avoir raison. C'est plus profond. C'est à propos de le connaître, lui qui a raison, de l'aimer lui, qui est amour, d'être rempli de l'esprit, gentil, gracieux, compréhensible, de comprendre, d'être sage. Il y a des nouvelles choses qui se passent dans la vie, et c'est lui. Il n'est pas loin de nous, il est proche de nous, et il a un message pour nous. Regardons au verset 20. Les Grecs, parmi eux, sont venus pour adorer pour les fêtes. Au verset 21, Bethesda en Galilée, ils ont dit, « Monsieur, on veut voir Jésus. » Ils demandent à Philippe, « Nous voulons voir Jésus. » André est venu et il dit à Philippe, et Philippe dit à Jésus, André va voir Jésus, lui dit, Jésus répond, il dit, le Fils, l'heure est venue, ou maintenant que le Fils va être glorifié. Vérité, en vérité, je vous le dis, à moins que le grain de blé ne tombe dans la terre et ne meure, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, s'il est enterré, il va porter du fruit. Qu'est-ce qu'il dit? On va dessiner au tableau, donc, on va écrire Galates 6, 15. Dieu ne veut pas que je me glorifie dans quoi que ce soit, excepté la croix de Jésus-Christ. La croix. Rien d'autre de me glorifier moi que dans la croix. Galates chapitre 6, verset 15. La phrase, la croix à porter, pour porter, c'est une dérivation populaire des mots de Jésus qui a dit « Prends ta croix et suis-moi ». La phrase est comprise communément. Le commandement de prendre la croix est bien plus qu'un symbole et que les difficultés d'expérimenter dans l'humanité. Quiconque qui veut suivre Jésus va souffrir la frustration et les douleurs dans ce monde. Prendre la croix chacun et suivre Jésus-Christ, c'est complètement différent que de souffrir dans cette vie. La croix est un instrument de mort, était, mais Jésus se refaire au commandement à lui jusqu'à la mort. L'obéissance jusqu'aux mesures extrêmes d'être disponible de mourir avec la poursuite de l'obéissance. Je voudrais être obéissant à Dieu. Je veux être obéissant. Ça ne sera pas confortable, bien sûr, mais je veux être obéissant à Dieu. Donc, est-ce que tu sais ce que tu vas gagner de cela? Non, pas vraiment. Je ne vois pas cela, mais je veux être obéissant à la croix. Obéissant à la croix. En prenant ta croix, Jésus montrait une image de la mort à soi-même, qui origine dans une autre phrase qui va dire « Quiconque veut perdre, veut sauver sa vie, va la perdre. Quiconque veut perdre sa vie pour ma cause à moi, va la sauver. Que profiterait-il à un homme si gagner le monde entier, il perdrait son âme ?» L'idée, c'est que rien dans cette vie n'est digne d'être gardé ou de sauvegarder si on perd sa vie éternelle. Pas un travail, ce n'est pas très important, une famille, un groupe d'amis, même pas notre identité propre de nous-mêmes. L'appel est dur, difficile, mais les récompenses éternelles sont vraiment dignes. Ça vaut la peine de la douleur que l'on va dessus. Les paroles de Jésus-Christ, il pensait que lui, il allait amener les disciples au royaume glorieux sur cette terre, qu'il allait régner. Ses propres disciples pensaient comme cela aussi. La mauvaise compréhension des prophéties, c'était choquant lorsque lui a commencé à parler de la mort à soi-même et de porter sa croix. Ils l'ont laissé à cause de cet enseignement et souvent, parfois, les croyants aujourd'hui, ils ne comprennent pas l'appel de Jésus-Christ. Ils pensent qu'on va avoir la santé, la richesse, la prospérité. Je pense qu'on connaît cela. Deviens chrétien, tu auras une bonne famille. Deviens chrétien, Dieu va bénir ton business, tes affaires. Deviens chrétien, tu seras en bonne santé. Une personne. Oui, mais Jésus, ici, il dit quelque chose d'autre. Perds ta vie. Perds ta vie à la croix. Va te rendre. Abandonne ta vie. Il va te remplir du Saint-Esprit. Faites une note. Notez quelque chose ici. Je veux mettre un point ici. Le monde romain grec, à l'époque, était païen, gréco-romain. Et il y avait l'apôtre Paul. Qu'est-ce que les païens font? Il y avait une différence très, très énorme entre les pauvres et les riches dans le monde romain. Une différence énorme entre l'élite et les gens du commun. Les hommes avaient beaucoup de femmes dans leur vie, se marier, une femme, mais beaucoup d'autres femmes aussi. Les femmes étaient discréditées. Elles n'étaient pas honorées. Les enfants, souvent, étaient ignorés. Ils n'étaient pas élevés correctement. trois choses que les chrétiens, ils ont fait qui ont changé cela. Les chrétiens aiment leurs femmes. Combien de femmes tu as dans ta vie? Une. J'ai ma femme. Un chrétien. Il a une seule femme, un chrétien? Sa femme. Il aime ses enfants. Oui, il aime ses enfants. Il en prend soin de ses enfants. Les pauvres, il se soucie des pauvres. Le désavantage des pauvres. Le monde des Romains s'en fichait. Il ne se souciait pas de ça. Comment ça s'est passé? Le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu as le rempli du Saint-Esprit? Perds ta vie. Perds ta vie. Rends ta vie à Dieu. Va te rendre. Obéis Dieu. Si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas cela, suis Dieu, fais confiance à Dieu. Obéis à Dieu. Trois choses ici, là, et on va terminer. Ça, c'est de Timothée Keller qui a, il a parlé de sa journée, de son voyage dans la foi. Il a grandi avec un dans un monde chrétien, mais il est allé dans une université séculière. Il a pris les deux vues. Il a grandi dans une famille chrétienne, mais il est allé dans une université séculaire, la vie d'un point de vue séculier et le point de vue de la vie d'un point de vue chrétien. Ce n'était pas suffisant pour lui. Il n'avait pas ce qu'il avait besoin. Il parle de trois barrières qui l'empêchaient d'aller de l'avant dans son voyage de la vie. Premièrement, tout d'abord, les questions intellectuelles à propos de la foi. Dans notre école chrétienne ici, on enseigne l'apologétique. Dans notre collège biblique aussi, on enseigne l'apologétique. On amène ça en question. Toutes ces questions incroyables à propos de notre foi. Est-ce que Dieu est réel? Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a un enfer? Comment est-ce qu'un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, peut avoir un enfer pour les gens qui vont partir là-bas? Ce sont des questions réelles. Ce livre ici, c'est la parole de Dieu. Il soulève la Bible. Est-ce que je suis sûr? Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je le sais? Je dois l'être. Ça, c'est la troisième voie, le troisième chemin. C'est quelque chose de spirituel. Ça touche votre cœur, ça illumine votre pensée. Ce n'est pas cette fête ici ou cette fête là-bas, les parties. C'est la communion. J'ai mes questions intellectuelles qui sont répondues par la sagesse qui vient de la parole de Dieu. C'est incroyable. Lorsque tu es avec les gens qui sont sages, tu as un livre qui est ouvert. Et ce livre est capable de répondre aux questions, de répondre qui vont te satisfaire. C'est critiquement important. Point numéro 2. Ma vie personnelle est privée à des problèmes. J'ai des situations dans ma vie personnelle, profondément, dans mon cœur. Des efforts, des combats avec l'insécurité, des combats avec la solitude, avec la culpabilité. Je suis pas capable, mon identité. Je me combats avec ma propre vie, mon propre image. Je suis le seul, moi, qui vis là. Vendredi soir, lorsque je mets ma tête, je m'allonge dans le lit sur mon coussin, je suis tout seul, et c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me connaît? Est-ce que quelqu'un peut me parler de ma vie personnelle, s'adresser à ma vie personnelle? Voici la bonne réponse pour vous. Dieu le fait. Je connais mes brebis, il a dit. Je connais mes brebis. On va rajouter des mots là. Je connais, je sais où elles habitent. Je sais ce qu'elles craignent. Je connais leur culpabilité. Je sais comment elles se sentent. Je connais mes brebis. Je connais le nombre de cheveux sur leur tête. Je connais qu'ils sont, je sais lorsqu'ils sont blessés, leurs blessures, leurs problèmes. Je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. Wow. Oh, vraiment, c'est pas une blague? C'est pas une blague, n'est-ce pas? C'est incroyable. Si Dieu, qui t'a créé, il te connaît, il se soucie de toi. Donc, le monde là-bas dans la rue, comme on l'appellerait là-bas à l'extérieur, le monde séculier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose pour moi dans mon cœur? Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas dans la Bible. C'est un groupe d'élite. Ils pensent qu'ils dirigent les choses. Est-ce qu'ils se soucient vraiment? Et en passant par là aussi, si Jésus a ressuscité les morts, les pharisiens, tu sais ce qu'ils disent? On va tuer deux personnes. Ils n'ont pas dit dans ces paroles-là, mais de cette façon, ils ont dit, on va tuer Lazare et on va tuer Jésus. Oh, formidable, n'est-ce pas? Ça touche mon cœur, vraiment. C'est sarcastique, là. Quel grand ministère vous avez. Oh, vraiment? Vous vous souciez des gens, vraiment, n'est-ce pas? Oh, vraiment. Ils se soucient de la puissance, de leur programme, et qu'ils se protègent eux-mêmes, et ils vont vous éliminer. Ils vont vous éliminer. Ce monde ne nous aide pas. Et le christianisme traditionnel. Moi, je me suis assis là, tout l'exercice, les pensées, et je veux pas les blâmer. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font, bien sûr. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus que cela. Le christianisme traditionnel. J'ai besoin d'écouter à quelqu'un qui est persuadé par ces idées. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va questionner ma foi et parler du christianisme et qui dit, oh, tu peux t'attraper de cela. J'ai besoin qui, par le Saint-Esprit, j'entends une voix dans le cœur, dans le corps, dans la communion. J'ai besoin du Christ vivant dans ma vie. Et ça doit être manifesté de ces trois façons ici. Voici. J'ai besoin de mes besoins intellectuels qui vont être mis en cause et questionnés, de ma vie privée et personnelle, et j'ai besoin d'une communauté de gens qui ont la véritable chose. Ils ont ce qui est vrai. Ce n'est pas bon pour Adam d'être tout seul. Dieu l'a fait dormir. Il s'est réveillé et elle était à côté de lui. Il avait besoin d'elle. C'est pareil avec nous. On a besoin de la communion. J'ai besoin de la communion. J'ai besoin de miroir. J'ai besoin d'avoir quelque chose que j'amène là et d'entendre l'écho qui me revient. J'ai besoin d'être aimé et d'aimer. J'ai besoin d'être calme et la présence de Dieu dans le silence avec ces gens et dans l'adoration du Saint-Esprit et le cœur des gens. Pas juste les paroles. J'ai besoin dans le cœur des gens. On est ordonné de Dieu. Pasteur Pete l'a dit. On est ordonné de Dieu d'être un corps de Christ. Et là, Dieu a commandé une bénédiction, la vie pour toujours, pour l'éternité. J'ai besoin de venir, de me montrer. Je veux dire ceci en terminant. Je pense, parfois on est isolé. On devient méchant, on devient énervé, isolé, on est centré sur soi-même, on est absorbé par soi-même dans l'égoïsme. As-tu jamais été avec quelqu'un? Il parle complètement pendant une heure à propos d'eux-mêmes, de leurs enfants, de leur éducation, de leur argent, de ceci. Tout le temps, pendant une heure, c'est que de... Et moi, je lève ma main, je dis, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux placer un mot? Est-ce que... Oui, bien sûr, oui. Peut-être ils ont un besoin, bien sûr. Je ne veux pas dire, je ne veux pas le faire exagérément, cet exemple, mais... Mais il y a quelque chose à propos des gens. Ils sont tellement absorbés par eux-mêmes. Ils sont aveuglés aux grandes questions. Ce n'est pas à propos de toi, de vous. Je veux Jésus. Jésus veut que tu sois libre, libre de toi-même, libre de voir les choses dans une façon plus grande, libre d'être aimé, libre d'aimer. Il veut que tu aies la joie. Il veut que tu le glorifies, lui. Il veut que tu chantes, que tu cries de tout ton cœur et que tu sois dans l'assemblée, dans la communion. Où nous sommes, on ne se relie pas à nous-mêmes, au soi, mais la croix, ce que ça signifie, on s'est perdu nous-mêmes par la mort. Personne ne veut mourir. Mais on a décidé de mourir. Et en mourant, on trouve une nouvelle vie. Il parle de la mort spirituelle. On trouve une nouvelle vie. On est satisfait. Une vie satisfaisante, une vie nouvelle. Et on a faim pour cela. Dans cette troisième façon, troisième voie, on peut dire au monde séculier, relaxez-vous, parlons. Comment va votre vie? Comment ça va? Je vous comprends. Je te comprends. Tu as la solitude. Je comprends que tu es effrayé. Je comprends que tu es un athée. Je comprends que ta vie est courte. Tu vas à la tombe. Je te comprends. Je veux que tu saches que je me soucie de vous et Dieu prend soin de vous. Dieu vous aime. On peut dire au chrétien aussi qui est assis quelque part. Il dit qu'il est un chrétien, tu peux lui dire, est-ce que ça va? Es-tu satisfait? As-tu trouvé? Es-tu satisfait? Est-ce qu'une religion peut, aucune religion peut marcher pour toi? Ça peut fonctionner. Si tu es né dans l'Arabie Saoudite, tu seras musulman. Si tu es né en Inde, tu vas être un hindou. Si tu es né en Michigan, tu seras de l'église luthérienne. Luthérien, qu'est-ce que tu vas croire, basé là où tu es né, ou est-ce que tu crois parce que tu as cherché et tu l'as trouvé? Si tu es indien, ou bien de l'Arabie Saoudite, ou de Michigan, peu importe, ça ne compte pas pour nous. Mais cette façon-là, la troisième voie, ça signifie que tu l'as cherché et que tu l'as trouvé. Et lui, il t'a cherché, et il t'a rempli, et il t'a satisfait. Ça, c'est notre communion. Amen. Prie avec moi.
Lord, there are undoubtedly people here.
Seigneur, il y a des gens ici dans le processus de chercher, de comprendre cela alors que tu les enseignes petit à petit. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles, lisez. Lisez les évangiles. Lisez un chapitre, deux, les chapitres au livre des Actes. Jean, chapitre 1, et parlez à Dieu. Et Dieu te parlera. Ta vie, avec le temps, va être redressée. Tu vas te réconforter. Lorsque tu échoues, confesse à Dieu. Il te pardonne immédiatement. Tu es pardonné. Continue de marcher par la foi avec lui. Notre pays a besoin, non pas de se battre, mais on a besoin de l'œuvre de la grâce de Dieu. Des gens comme nous qui partagent notre foi au travers du pays. Une nouvelle chose dans la vie, l'amour, le pardon, l'esprit qui remplit les gens. Diriger, se lever et diriger les autres et à te connaître et de te connaître. Seigneur. Ça se passe aujourd'hui en Chine, dans des grands nombres des pays arabiques, ça se passe en Inde, dans de grands nombres de gens. Ça grandit rapidement. La religion dans le monde qui grandit le plus, ça grandit quatre fois plus vite que l'islam. Le christianisme. Pourquoi? parce que ça marche. C'est réel, c'est véritable. Et pour nous, dans nos églises, on est assis en Amérique, aussi on trouverait et te connaître personnellement. Ça changerait nos cœurs. Au nom de Jésus, merci Dieu. Quiconque qui écoute ici, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Dis, Jésus-Christ, viens dans ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Enseigne-moi, montre-moi le chemin. Dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.